Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc avec moi Mathieu et Charline, on est sur un festival Van Life, donc on se retrouve à plusieurs Van Lifers, ouais, de toute cette mouvance qui a envie de se mettre en route et peut-être d'aller vers une forme de liberté ou de sens, hein, parce qu'on va parler aussi d'un podcast que tu vas lancer en quête de sens. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment cette question qui est assez prégnante, cette envie de remettre du sens, remettre de la cohérence et kiffer nos lives. Donc ici dans ce festival, il y a des beaux véhicules aménagés. Mathieu, je vais venir m'intéresser un peu à toi, à Charline, à votre projet. On va revenir un peu à l'origine. À quel moment est-ce que tu as voulu peut-être sortir des sentiers battus pour te lancer dans ce concept de la van life? Comment est-ce que c'est venu à toi? Voilà, reviens un peu sur cette histoire-là.
Notre aventure, elle a commencé grâce au 4L Trophy, qui est un raid humanitaire organisé au Maroc. On a participé en 2019. C'était le kiff de partir avec une voiture qu'on a dû aménager parce qu'on a souhaité dormir dedans et pas dans une tente. Et donc tout est né de là. Un raid de 10 jours humanitaire, on est revenu, on est rentré dans la période Covid, ça nous a fait bizarre. On voyait toutes ces inspirations sur Instagram de gens qui partaient vivre une vie incroyable. On s'est dit ok, pourquoi pas nous. Donc on a acheté un Trafic, véhicule de livraison qu'on a entièrement rénové, entièrement aménagé. Et puis on s'est fixé comme objectif de partir en tour d'Europe de 4 mois à la fin de nos études puisqu'on était en alternance. C'est donc ce qu'on a fait, 4 mois, 13 pays, un voyage très chargé et en revenant c'était très difficile. Très difficile, on est revenu à notre ancienne vie, on avait des CDI qui nous étaient proposés, on avait cette chance là dans des sociétés dans lesquelles ça se passait bien. Et on s'est regardé, on s'est dit non, ça nous va pas, c'est pas pour nous, on se sent pas bien. On a eu la chance d'adopter un petit chien en Roumanie, donc qui nous a rejoint pour la suite de notre vie. On s'est dit on va pas tenir dans le trafic, c'est pas possible si on veut y vivre à l'année. Donc on s'est reformé pour adapter nos métiers, pour qu'ils soient compatibles. On a acheté un plus gros véhicule, donc un camping-car des années 90. Et nous voilà partis à l'aventure depuis maintenant 2 ans, avec une forme de voyage complètement différente. C'est pas 13 pays en 3 mois, maintenant c'est un pays en 3 mois, que ce soit la France, l'Espagne. Pour l'instant on reste quand même en Europe. On fait des rencontres incroyables, on participe à pas mal de festivals, on organise nos journées, on bosse moins, on gagne moins bien notre vie, mais qu'est-ce qu'on profite ?
Belle introduction, donc on va revenir déjà sur le 4L Trophy. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept ? Pourquoi ça a été créé, quand ça a été créé et quel est le but?
Alors le 4L Trophy, raid humanitaire créé il y a entre 25 et 30 ans je pense, par l'organisateur Desert Tour. Le but c'est, on va pas se mentir, d'aller s'amuser avec une 4L dans le désert pendant une dizaine de jours. Ça se fait avec le on soutient vachement l'association Enfants du Désert qui agit au Maroc depuis de nombreuses années. Ils construisent des écoles, ils agissent énormément pour l'éducation, l'accès à l'éducation à beaucoup d'enfants qui n'en ont pas la possibilité. On a découvert ce raid humanitaire grâce aux vidéos YouTube de Amixem à l'époque, ça commence à faire longtemps, c'était un rêve de gosse. Et puis ça s'est transformé en réalité. Quand j'en ai parlé à Charline, on venait à peine de se rencontrer en 2019. Et puis en fait, ça nous a vachement soudés. On s'est dit de toute façon, vivre pendant 10 jours dans une 4L alors que ça fait 6 mois qu'on est ensemble, soit ça passe, soit ça casse. Et c'est passé. C'est passé, c'était une aventure incroyable. En fait, tu sais, je relie un peu à ce qu'on vit aujourd'hui. On a eu un shot d'humanité. On était dans une période de nos vies où on était au lycée, fin de lycée, début d'études. C'est un petit peu chacun pour soi, c'est un petit peu... On regarde souvent les notes des autres, on juge beaucoup. Puis là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des 3000 jeunes. Il y avait 1504 L sur notre édition. Donc 3000 étudiants, enfin ou pas, de 18 à 28 ans. Et c'est un shot d'humanité qu'on a pris.
Donc vous êtes 1400 à partir en 4L, donc d'un point A où chacun part de chez soi. Comment ça se passe et qui sont ces gens? Et est-ce que c'est ouvert à tous? Comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on fait partie de cette aventure?
Point de rendez-vous donné à Biarritz. C'est le point de rendez-vous depuis plusieurs années au Aldirati. Donc chacun fait le voyage depuis sa région de France et d'ailleurs, parce que c'est ouvert à toute l'Europe. Donc on a souvent des Belges, on a même des Italiens, des Espagnols, puisqu'on traverse l'Espagne. Et donc ouais, voilà, départ de Biarritz, on traverse toute l'Espagne en 2 jours, donc c'est quand même assez chargé. On prend tous le ferry et puis à partir de là, l'aventure démarre au Maroc. On rejoint très rapidement les pistes et c'est incroyable.
Mais c'est une caravane où tout le monde se suit, ou est-ce que c'est le premier arrivé? Comment ça se passe? Parce que 1400 véhicules qui sortent du bateau en même temps, ça passe pas inaperçu.
Ça passe pas inaperçu, je te le fais pas dire, même dans Biarritz, en traversant l'Espagne. Alors le 4L Trophy, ça reste une course en effet, mais c'est une course d'orientation. Le but c'est de faire le moins de kilomètres, parce qu'en fait on navigue au roadbook quand on est dans le désert marocain. Donc on a des indications qui sont pas forcément très précises, et donc on doit jouer le jeu de s'orienter avec la boussole, de se dire ok, peut-être que là on va pouvoir couper par le désert pour réussir à arriver à ce checkpoint. Ça fait des scènes très drôles, les 4L justement, tu connais, il y en a très peu en 4x4, ça se fait très rare, donc on a des véhicules souvent un peu trop chargés, parce qu'on a des fournitures scolaires qu'on amène à enfants du désert, et puis on a tout notre matos, donc oui, on s'embourbe pas mal dans le sable, ça fait des moments vachement drôles, puis les sables, les filtres à air, ils bouffent du sable, on est souvent en panne, enfin, c'est des moments drôles, parce qu'en fait tout le monde s'entraide, on se connaît pas, on se donne des coups de main, et les gens ont le smile, ils voient plus de 1400 arriver sur la route, c'est incroyable. Donc il n'y a pas ce gros convoi où on se suit tous, parce qu'il n'y a pas cette pression d'arriver avant telle heure. C'est juste essayer de faire le moins de kilomètres possible, donc ouais, c'est chouette, il y a moins de pression en fait.
Oui, parce que c'est ça, une fois que la voiture arrive sur le point final, il faut qu'elle revienne ici. Donc comment est-ce que le retour se fait? De la même manière, vous partez à 1400?
Le retour se fait à peu près de la même manière. En fait, tu as plusieurs ferries. On ne passe pas tous dans le même ferry. Donc à partir de là, ça divise quand même pas mal les 4L et ça fluidifie le trajet.
Le point d'arrivée, c'est où?
Alors, le point d'arrivée au Maroc, c'est Marrakech. C'est Marrakech. Il y a différents points d'arrivée. Moi, à mon année, c'était vraiment dans le centre de Marrakech. Là, ils arrivent directement sur le circuit automobile de Marrakech. Donc c'est encore plus sympa. C'est un beau petit clin d'œil, quoi.
Mais donc c'est pas du direct Biarritz-Marrakech, c'est à des points à rallier, parce que tu peux très bien aller à Marrakech sans traverser le désert. Hein. Quand tu longes la côte, tu arrives sur Marrakech sans passer par la partie Atlas et la partie désert.
C'est exactement ça. On a pas mal de boucles à faire. En fait, si tu veux, on part directement un petit peu dans la partie est du Maroc, on descend dans les dunes de Merzouga, c'est là où on fait pas mal de boucles, et puis après on rallie Marrakech pour terminer. Et en effet, on monte dans l'Atlas, on va jusqu'à Boulajoul où on a des températures négatives la nuit, sauf qu'on a des 4L, on n'a pas des vannes qui sont bien isolées. La nuit, tu dors, t'as les gouttes qui te tombent dessus tellement il y a de la condensation, tu vois.
Tu peux poser ta tente et dormir à côté de la voiture, non?
Tu peux poser ta tente, beaucoup le font, la plupart le font d'ailleurs, parce qu'une 4L classique, c'est pas facile de trouver la longueur pour dormir dedans. Nous, on avait une 4L fourgonnette, la F4, donc elle était un petit peu plus longue, on a réussi à aménager un lit dedans, mais à Boulajoul, ceux qui dormaient dans les tentes, c'était encore pire. Les moins 2, moins 3 degrés, ils s'en souviennent encore. Mais bon, ça fait des histoires à raconter, c'est pas grave.
Combien ça coûte de faire ce voyage?
Ça coûte très cher. On va pas se mentir, on a eu une petite déception avec Charline parce qu'on s'est un petit peu voilé la face sur l'aspect humanitaire du 4L Trophy. Aujourd'hui, l'association Enfants du Désert fait un travail incroyable. Je t'avais parlé du youtubeur Amixem qui est toujours parrain de cette association. Ils agissent vraiment et ils font un super boulot. Néanmoins, Desert Tour qui organise le 4L Trophy, ça reste une agence de voyage qui fait beaucoup de profit. Et on a trouvé leur investissement financier, parce qu'ils font un don quand même à Enfants du Désert. On l'a trouvé beaucoup trop faible par rapport aux bénéfices qu'ils tiraient du 4L Trophy. Ça reste une inscription à 3 000 €, plus l'achat de la voiture qui va te coûter dans les 3-4 000. Les 4L, moins il y en a, plus les années passent, moins il y en a, plus elles prennent de la cote, malgré qu'elles soient en mauvais état. Donc ça reste cher de l'acheter, il faut la rénover, il faut l'adapter. T'as un gros budget essence, donc globalement on s'en est sorti pour 10 000 €. Ça fait aussi partie de l'aventure parce qu'on n'a pas déboursé grand chose. On a réussi à se faire sponsoriser par pas mal d'entreprises de la région. Donc c'est chouette, ils ont joué le jeu parce qu'ils savaient très bien que sur 1404L, ça passe pas à la télé, c'est pas rediffusé comme le Dakar, ils allaient pas avoir une image qui allait être propulsée, mais ils ont quand même joué le jeu parce qu'ils ont apprécié notre démarche, ils ont apprécié tout le boulot qu'on faisait, dossier de presse, etc. Donc ça nous a bien formé, ouais.
Donc pour démystifier, le côté humanitaire, c'est presque un prétexte en fait de ce que j'entends.
Mais bien sûr, c'est un prétexte. Tu vas pas aller récupérer 10 000 euros de sponsor en disant coucou, je vais aller faire mumus dans le désert avec une 4L, ça marche pas. Donc il y a on rajoute cet aspect humanitaire. En fait, on apporte des fournitures scolaires à enfants du désert, chacun dans nos 4L. En plus de ça, on peut faire un chèque, je crois que c'est minimum 20 euros, ce qui est vraiment un très faible montant. Le problème, c'est que cette enveloppe-là, du chèque qu'on fait à Désertour, pour chacun des équipages, en tout cas pour la majorité, c'est pas la priorité. D'abord, on va mettre de l'argent dans la voiture, ensuite on va mettre de l'argent dans le budget essence, dans le budget nourriture, dans le budget bière. Et en fait, le budget enfant du désert, il arrive en dernier.
Mais c'est une vraie question. J'entends tout à fait cette envie de vivre une expérience humaine avec des copains, de s'éclater, de faire quelque chose qui nous fait kiffer, partir en 4L. C'est vrai que le rêve est grand, enfin, ça donne envie. Et en même temps, aujourd'hui, on nous bassine de réchauffement climatique, de brûler du kérosène ou de l'essence. Enfin voilà, je pense qu'il y a une forme d'injonction entre une envie personnelle qu'on a, qui est normale, hein, qui a envie de vivre ses rêves, et finalement l'idéologie qu'on a envie d'appliquer aussi sur l'écologie, respecter tout ça, parce qu'on est tous sensibles aussi à ça. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça ?
C'est très compliqué. Et t'as raison. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je me poserais ces questions-là. À l'époque, je me les suis pas posées. J'étais peut-être beaucoup moins sensibilisé, et puis c'est très facile de se mettre des œillères. On parle de réchauffement climatique dû au trafic aérien. On se dit pas que nous, avec notre 4L, ça craint. Mais oui, ça craint. Oui. Après, est-ce que je le regrette ? Non. Parce qu'en fait, cette aventure, elle a changé notre vie. Elle a changé notre vie, elle nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est beaucoup plus impliqués d'un point de vue écologique, on se rend compte de beaucoup de choses. Et tu vas me dire, est-ce que je recommande quand même de faire le 4L Trophy, malgré que ce soit quand même une problématique environnementale, malgré qu'ils jouent pas le jeu d'un point de vue humanitaire? Je te dirais quand même oui, en toute connaissance de cause. Avec les infos que je donne là, faut être conscient de ce qu'on fait. Et si ça peut nous ouvrir encore plus les yeux, c'est pas plus mal.
Non mais j'entends qu'à titre personnel, c'est une super aventure, et j'entends aussi que tu le recommandes, mais aussi la question presque humanitaire, où on peut y voir une forme aussi de néocolonialisme, où nous, occidentaux, partons dans le désert, et pour nous c'est facile de traverser et d'aller là-bas, alors que dans l'autre sens, t'as plein d'Africains qui espéraient pouvoir vivre cette aventure dans l'autre sens, et c'est pas possible.
Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu sais, quand t'es en plein milieu du désert, les enfants, ils s'amusent à venir t'aider à pousser la 4L pour que tu leur donnes un petit peu d'argent. Généralement, ils négocient quand même assez cher, hein. Et puis sinon, ils négocient des bières ou des choses comme ça. Bon, ça fait partie du jeu. Après, tu sais qu'on nous donne l'info de rien donner, parce qu'après, ils se font racketter, après, ça devient compliqué. Sauf que quand tu continues ton trajet, tu sors du désert, t'arrives dans des villages, tu comprends. Tu comprends, là ça te bouleverse un peu, parce que t'es à 30 km de Marrakech. Bon, Marrakech, c'est quand même un petit peu, par rapport à tout ce qu'on voit au Maroc, c'est un peu la démesure, et des grands hôtels, il y a plein de voitures partout, il y a du brouhaha. Et puis à 30 km de Marrakech, t'as des enfants sur le bord de la route, ils te demandent pas des bières, ils te demandent pas de l'argent, ils te demandent juste de l'eau. Et là ça te touche, et tu te dis, ok, je suis en train de comprendre pas mal de choses. Et aujourd'hui, on donne notamment à Enfants du Désert pour le travail qu'ils font, et on le donne en direct à eux. On essaye d'en parler, d'en faire de la communication autant qu'on peut, parce que c'est notre manière de contribuer.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mathieu, donc tu pars avec Charline faire ce 4L Trophy en 2019, hein, c'est ça? En 2019, donc expérience qui a transformé ta vie, tu disais, en tout cas une expérience très impactante, et que tu recommanderais malgré effectivement tous les dark sides, hein, les côtés un peu obscurs, mais ça reste quand même une belle expérience qui permet effectivement, comme tu l'as très justement dit, d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et donc après cette aventure-là, si j'ai bien compris, le nomadisme ne s'est pas arrêté.
Exactement. Alors il s'est arrêté quand même un petit peu parce qu'on a fini nos études. On s'est rencontré avec Charline dans une école, donc à l'université de Toulon. On vient de Toulon tous les deux et on était en formation en présentiel. Après ça, on s'est dit ok, on vient d'avoir un bac plus 2. C'est vrai qu'à l'étranger, à l'international en tout cas, ça, on nous dit souvent que ça vaut pas grand chose à partir du bac plus 3. On s'est dit écoute, on va continuer, on est en alternance dans nos sociétés, ça se passe plutôt bien. Continuons. Donc on a trouvé un organisme de formation à distance. C'était super chouette, on avait 2 jours par semaine où on bossait pour les cours, donc chez nous à distance sur l'ordinateur, et 3 jours par semaine où on était en entreprise. Et donc c'est là où on a commencé à réfléchir, on s'est dit ok, après la 4L, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a racheté le véhicule de livraison de l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui nous l'a vendu à un très très bon prix pour nous aider à démarrer ce projet-là. Et on s'est dit ok, c'est cool, en fait on a le samedi, le dimanche, lundi, mardi on est en formation, donc on peut bosser sur le trafic et puis on fera les cours la nuit. Donc voilà, on a réussi à finir l'aménagement de ce trafic et Charline n'allait pas très bien dans son travail, elle s'y retrouvait pas. Moi je m'y plaisais plutôt, je trouvais pas forcément de sens dans le boulot que je faisais. Je bossais globalement dans le marketing, très, c'est très large, vraiment multicasquette. Charline, quant à elle, elle faisait de la com dans le BTP. Alors t'imagines qu'une femme dans le BTP, c'est quand même assez compliqué. Et puis de la com pour des gens qui veulent pas faire de com. Donc tu vois un petit peu l'alternance que c'était. Donc ça devenait quand même très difficile pour elle. Elle s'est débrouillée pour terminer son contrat d'alternance avant la date prévue, tellement elle n'en pouvait plus. Et en fait, on avait juste hâte, c'est de pouvoir, ça y est, enfin partir pour ce tour d'Europe. Mais on ne se posait pas de questions sur la suite. On s'est juste dit, ok, on part pendant 4 mois, ça va être super chouette.
Mais donc là, sur vos fonds propres, hein, l'idée, c'était vraiment de prendre la route à deux, vivre une aventure humaine, encore une expérience de couple, en étant dans les rencontres, l'ouverture et la découverte.
C'est exactement ça. Alors, c'était sur nos économies et aussi sur Pôle emploi. Charline, en fait, à ce moment-là, avant de partir, elle informe Pôle emploi qu'elle souhaite une reconversion à son compte. Donc il y avait une formule dont j'ai oublié le nom, mais qui te permettait de toucher, elle avait un peu moins de 1000 euros par mois, et en fait Pôle emploi complétait son salaire si elle encaissait 400 euros auprès d'un client à son compte, et complétait 600 pour qu'elle arrive à 1000. Donc elle avait cette formule-là qui allait durer un an. Moi j'ai bénéficié du chômage pendant ces 3-4 mois de voyage, et puis après j'ai bénéficié de la même chose de Charline quand j'ai voulu me mettre à mon compte. Mais là j'avance un peu trop vite parce qu'on n'est pas encore revenu de notre tour d'Europe dans l'histoire. En réalité, ces 4 mois, ils étaient très intenses parce qu'on voyageait beaucoup. Comme je t'ai dit, 13 pays en 4 mois, c'est énorme. Je ne sais pas combien de kilomètres ça représentait, mais peut-être une quinzaine de milliers de kilomètres. Donc c'est beaucoup. Émotionnellement parlant, ça nous a chamboulé sur les personnes qu'on a rencontrées, sur Sibiu, notre chien qu'on a sauvé. En fait, on a ramené 3 chiens de Roumanie, mais pas uniquement Sibiu, on a fait adopter les 2 autres en France. Donc ça aussi, émotionnellement, c'était quelque chose. Et puis, la principale chose qui nous a frappé, c'est que quand on fait 13 pays en 4 mois, on cherche des paysages, on cherche des endroits, on cherche un petit peu des cultures, mais en fait, c'est les paysages qui nous guident dans nos voyages. Et quand on revient, on se dit en fait non, c'est l'humain. C'est l'humain, parce qu'aujourd'hui, tu me parles de telle ou telle cascade, de tel lac, de telle forêt. Je vais te dire, ah ouais, j'y suis allé. C'est où? J'en sais rien, j'avais un point GPS, je conduisais, on profitait de la vue, c'est vrai, mais en fait, en abondance, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en tout cas, nous, on ne trouvait pas de sens à le faire de cette manière-là. Par contre, les quelques humains incroyables que j'ai rencontrés, encore plus ceux avec lesquels je ne parlais pas la même langue. Tu partages quelque chose d'autrement différent et d'autrement puissant.
Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des gens, sachant que le camping-car, ça peut être une bulle, hein, où on se retrouve dans une sorte de cocon, et c'est pas forcément facile, peut-être, d'être dans la rencontre, ou en tout cas moins facile que quand t'es en stop au bord de la route.
C'est vrai, le stop c'est quelque chose que j'ai jamais testé, mais ça, entre guillemets, ça force les rencontres. Quand tu es en van, et tu peux avoir ce sentiment-là, enfin en van, en fourgon, camping-car, oui, parce qu'on est deux, on est en couple, et du coup je pense que sans le, vraiment le souhaiter, sans le vouloir, on est plus fermé. On n'est pas forcément, alors on est très, on dit bonjour à tout le monde, on a toujours le sourire, mais quelqu'un qui est peut-être seul n'ose pas approcher un couple, alors que quand tu vois une personne seule, c'est peut-être beaucoup plus facile. Néanmoins, ça se fait avec les locaux surtout, on essaye autant que possible de participer à l'économie locale, ça nous tient vraiment à cœur, en fonction du budget, en fonction du pays dans lequel on se trouve. En France, c'est pas tout le temps évident avec le budget qu'on a, mais par contre, dans des pays comme le Monténégro, on joue le jeu autant qu'on peut. Et là, tu tombes sur des personnes où on se comprend pas. Je lui demande s'il a de la bière fraîche. Il me regarde, il hausse un peu les yeux, et il me touche le ventre et il me dit, mon gars, c'est peut-être pas nécessaire. Tu vois, c'est des moments, c'est bête, mais en fait, c'est incroyable. Donc ça se fait. Il faut toujours rester ouvert, le sourire, le bonjour, et puis apprendre quelques mots de la langue dans le pays dans lequel on se trouve. Alors les pays ont resté 2 semaines, alors il fallait quand même rapidement apprendre, mais au moins un bonjour, merci, au revoir s'il vous plaît, pour amorcer la discussion, et après dans tous les cas t'arrives à te comprendre, puis les gens ils apprécient.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu parles du retour aussi qui a pas l'air d'être évident.
Non, le retour était très compliqué. En fait, on a vécu une aventure extraordinaire et on se retrouve tous les deux dans notre petit appartement, pas très lumineux. À se regarder dans le blanc des yeux. Alors on est les 2 premières semaines, on est vachement heureux parce qu'on retrouve notre petit Sibiu, chien qu'on a adopté en Roumanie, qui est arrivé par transporteur parce qu'on pouvait pas le prendre avec nous pour des raisons de législation. Donc ouais, les 2 semaines sont sympas, on retrouve la famille, on découvre Sibiu, c'est vraiment chouette. Et après, c'est quoi qui nous attend? On vient de vivre 4 mois comme ça, on a fait des rencontres. Je t'ai parlé des locaux qu'on a rencontrés, mais on a rencontré aussi des amis français, Guillaume et Laura. On les a rencontrés à un moment assez difficile où mon meilleur ami est venu en avion passer quelques jours avec nous. On avait fait un Airbnb en Grèce et puis il repart. Gros coup de mou. Prochain pays à traverser, c'est l'Albanie. On nous dit beaucoup, l'Albanie ça craint les gars, attention, la mafia et tout. Donc coup de mou que mon meilleur pote s'en aille, coup de mou, je me dis putain, l'Albanie, qu'est-ce qui nous attend? Je dis à Chacha, tu sais quoi, viens, on arrête, on va récupérer le chien en Roumanie et on rentre, on trace. C'est compliqué là quand même, je sais pas ce qui nous attend, l'inconnu, ça fait peur. Elle me dit, ok, écoute, je te propose que on prend quand même le trajet, on va aller en Albanie et puis si vraiment ça va pas, ben on trace. Premier soir en Albanie, on tombe sur des Français, Guillaume et Laura. Je te la fais courte, on a passé 1,5 mois ensemble, on a vécu ensemble, on visitait tout ensemble. Et aujourd'hui, c'est la famille. Ils sont là, au festival, ils viennent de Mulhouse, donc on est avec eux ici. Et ça a créé des liens incroyables. Et donc, de retour à notre appartement, on se dit, mais c'est quoi la suite? Est-ce qu'on reprend les CDI qu'on nous proposait? Est-ce qu'on se met à notre compte? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on a travaillé sur la piste du CDI. Moi, je me suis dit, je vais re-signer avec mon ancienne entreprise. Ça se passait bien, une bonne ambiance au boulot. Bon, Charline, elle va se mettre à son compte, elle va faire de la com, et puis on a toujours le trafic, on partira sur nos 5 semaines. Ça a duré 10 jours, et on s'est dit, ok, non, c'est pas possible. On a de quoi repartir. On a des métiers qui sont 100% compatibles. Aujourd'hui, on peut avoir Internet de partout, on a plein de solutions qui existent. Vas-y, viens, on y va. On s'achète un autre véhicule, parce que là, ça va pas le faire, pour y vivre à l'année. On s'est tapé 2 semaines de pluie d'affilée en août, en Allemagne et en Autriche. 2 semaines de pluie dans un trafic avec un toit relevable, c'est dur. Faire sécher les vêtements, etc. Donc on s'est dit, ok, on va trouver un autre véhicule, camping-car, parce que comme ça, c'est pas trop cher, c'est quand même assez grand, c'est moche. Mais quitte à faire moche, on va faire vieillot, donc on va en prendre un vieux qui a un charme un peu old school, un peu vintage, et tout est parti de là.
Sur le camping-car, c'est moche. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une sorte de guéguerre ou de rivalité entre le camping-cariste et les van-lifers.
Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à ton micro, mais il y a un très bon copain à moi qui s'était fait interviewer récemment. Et je retiens une parole qui m'a beaucoup fait rire. Il lui a dit, ouais, mais tu sais, les cons, il y en a aussi en fourgon. Ouais, c'est vrai, les camping-caristes, ils ont cette étiquette du retraité qui passe 2 mois d'affilée au Maroc sur un spot en bord de plage, qui participe pas forcément à l'économie locale d'ailleurs, qui s'investit pas trop dans la culture. Camping-cariste, il est vachement vu comme ça en France, c'est vrai. Mais pas que. T'as aussi des gens en fourgon qui ont cette mentalité-là, et t'as beaucoup de camping-caristes qui ont pas du tout cette mentalité-là, qui sont là pour faire des rencontres, pour profiter, pour voyager. Franchement, t'as tout. On essaye de contribuer à enlever cette étiquette un peu négative du camping-cariste, mais comme il est un peu vieux, je trouve qu'il sort quand même du lot. Quand on nous voit, on se dit pas il est des retraités, non, il est un peu cheap pour que ce soit des retraités, donc ça va. On n'a pas trop cette étiquette.
Ouais, parce que le côté fourgon aménagé, c'est relativement récent. Je pense qu'il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, ça n'existait pas. C'était effectivement essentiellement des retraités qui partaient sur les routes d'Europe avec un camping-car. Et est-ce que toi, tu connais un petit peu l'histoire ou l'origine de la van life? À quel moment est-ce que c'est vraiment apparu en France?
Ouais, je pense. Alors, on relie toujours ça au mouvement des hippies dans les années 70 avec les fameux combis, tu sais. Je pense qu'il y en avait déjà un peu à cette époque-là. Ça s'est démocratisé vachement aussi en Australie, hein, avec les PVT et les jeunes qui étaient là-bas pour surtout faire des économies, donc c'est facile de dormir dans sa voiture. Il y a aussi cette influence là, et puis ils sont vachement sur Instagram, donc c'est comme ça que ça se communique. Après le problème en fait dans tout ça, selon moi, c'est vraiment un problème, c'est que ça s'est démocratisé avec le Covid. Beaucoup de personnes qui se sont dit après Covid, faut qu'on sorte de chez nous, faut qu'on profite de la vie, là ça va pas du tout. Et puis ils sont achetés des vans, des fourgons, généralement assez chers. Et problème, tu sais, je parlais du camping-cariste qui s'investit pas trop, mais le camping-cariste, il est ultra respectueux en réalité. Il va jamais se permettre de salir des spots sur lesquels il se trouve, que ce soit des campings, des aires, des spots nature. Camping-cariste, il repart souvent avec plus de déchets que ce qu'il en a vu en arrivant. Et le problème avec les fourgons, c'est que les personnes qui les louaient, selon moi, c'est mon avis, ils n'avaient pas cette mentalité-là, ils n'avaient pas cette sensibilité-là. Et donc ça a fait que ça a un petit peu terni l'image du voyageur en van, en fourgon. Et c'est dommage parce que du coup le respect des lieux, dans la majorité des cas, c'est pas fait super bien. Dans des petits fourgons, t'as pas forcément des toilettes, ce qui fait que il va falloir faire ses besoins dehors. T'as 2 écoles, tu peux prendre une pelle, enterrer, brûler ton papier toilette, ou alors tu peux juste y aller classique et puis tout laisser sur place. Et il y a eu un petit ras-le-bol 2-3 ans après cette vague là post-Covid, il y a eu un petit ras-le-bol et on l'a tous ressenti.
Ouais, parce qu'il y a des régions peut-être où il y avait aussi plus de vannes ou de fourgons aménagés que dans d'autres. Et on a vu aussi des bars qui limitaient la hauteur à 2 mètres sur pas mal de parkings. Et des sites qui sont devenus de plus en plus saturés aussi. On peut peut-être parler de ces applications où tout le monde se retrouve.
Oui, tu sais, je viens de la Côte d'Azur, donc les barrières à 1m90, 2m, oui, on les connaît. On les connaît, en réalité, on les comprend, et j'ai pas du tout de mal avec ça. Dans tous les cas, je vais pas te mentir, qu'il y ait des barrières ou pas, c'est bondé. Je vais prendre aucun plaisir en plein cagnard à aller me poser en bord de mer juste parce que c'est la Côte d'Azur. Le problème, c'est le surtourisme, c'est vrai. Nous, on a cette chance là dans nos véhicules de pouvoir se poser vraiment n'importe où, d'avoir cette flexibilité là, de pouvoir bouger, de s'adapter. Tu vois, on vient de faire la Bretagne, qui est une région incroyable, magnifique. J'avais jamais vu la côte ouest. La Bretagne, ouais, selon les endroits, tu peux dormir sur la plage, mais pas en juillet-août. C'est ça la chance qu'on a, nous, c'est qu'on choisit la destination en fonction du monde, en fonction de l'affluence, en fonction de la météo, et c'est du bon sens. Je sais que la région d'Alsace souffre du surtourisme. On va bientôt faire un voyage de presse avec Audrey et Steve qui ont organisé ça d'une main de maître, et ça a été compliqué pour la région d'accepter de jouer le jeu, parce qu'en fait ils t'expliquent qu'ils n'ont pas besoin de pub, et puis généralement la pub qui est faite par des influenceurs voyage, elle ne reflète pas la réalité. Ils te montrent des places de centre-ville vides en mode ouais venez c'est trop chouette, non c'est bondé, ne venez pas, adaptez-vous, venez sur d'autres périodes. Donc ça me gêne pas, les barrières de 2 mètres, je joue le jeu, je vais pas m'installer à ces endroits. Je monte dans le Haut-Var, il fait un peu plus frais, on a des belles vues incroyables, on va se baigner dans les lacs, des rivières et pas forcément dans la mer, c'est pas grave.
Et Mathieu, pour terminer, donc je reviens, Enquête Nomade, celui qui veut en savoir un petit peu plus sur vous, votre aventure et le podcast Enquête de Sens.
Eh bien écoute, le mieux c'est notre site internet, www.enquêtenomade.fr. Le blog est en ligne, ça te redirigera vers nos réseaux sociaux, vers le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube également, pour ceux qui préfèrent le voir en vidéo. Donc voilà, www.enquêtenomade.fr.
Mathieu, merci.
Merci à toi, c'était un très bon moment.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.